France Culture.
Bonjour, ça va et vous ?
France Culture.
On a ça, si on a envie d'avoir un peu de faux décor.
Oui.
Ce sont les photos que vous nous avez envoyées.
Le Book Club.
J'ai petite fleur dans la tête. Vous connaissez cette chanson ?
Ah bah oui.
C'est bizarre, non ? Il faut prêter attention aux chansons qui reviennent.
Mais c'est la chanson avec les paroles ou bien c'est la musique ?
Bah les deux, mais du coup c'est plutôt ça me revient avec les paroles.
Oui, oui.
Mais je la fredonne souvent.
J'ai gardé dans le secret de mon cœur, c'est ça ? Oui. Une petite fleur.
Et ça, j'aime trop quand ça commence.
J'ai chanté ça.
Et bah je me demande si c'est pas Salvador, non ? Qui dit « Si les fleurs qui bordent le chemin »
dans la bibliothèque de Jean Echenoz.
« Demain, je garderai au cœur » celle qui... Je sais pas pourquoi, je sais. S'allumait dans... C'est pas Salvador ?
C'est possible, ça je sais plus.
Marie Richeux.
Pour chasser les mélodies insistantes, c'est très compliqué.
Dans Les Grandes Blondes, votre roman publié en 1995 par les éditions de Minuit, le personnage de Julie dispose d'une brève bibliothèque, je cite, « quelques romans policiers, des textes de Freud en édition populaire et une série de petits volumes en anglais ». Cette bibliothèque de personnages s'inspirerait d'une autre bibliothèque d'un autre personnage dans un roman de Jean-Patrick Manchette, « Au dingo au château » paru en 1972. Vous racontez souvent, Jean Echenoz, quel choc a été pour vous la lecture des livres de Jean-Patrick Manchette. C'est la forme qui débarquait en plus du goût des histoires. Chercher la forme ou chercher une phrase qui, dites-vous, en reprenant cette fois le titre d'un livre de Pierre Alféri, est l'une des choses les plus intéressantes qu'il soit. Quelques années après cette découverte, c'est Manchette lui-même qui vous lisait de près et relevait une phrase dans la bouche d'un des personnages de votre roman Cherokee, censé ramasser tout votre art romanesque, je cite, et quand ce n'est plus coincé, alors il faut que ça se recoince, voyez-vous, pour pouvoir ensuite encore mieux se découvrir. Coincé. On vous imagine parfaitement les cherchant, cette phrase, cette forme, ce coinçage-décoinçage, au milieu de beaucoup de livres dont vous dites qu'ils vous entourent depuis l'enfance. L'heure est donc venue de savoir un peu lesquels. Merci beaucoup d'ouvrir votre bibliothèque au Book Club, Jean Echenoz. Bienvenue chez vous.
Merci.
J'ai disposé grâce à vous devant moi trois photographies prises par vous de votre récente, toute récente bibliothèque.
Oui.
Ce qui fait qu'on est un peu chez vous, dans une installation, bibliothèque récente.
Ah oui, c'est une installation très très provisoire, parce que comme à la suite d'un déménagement récent, j'ai remis tous les livres un peu en désordre. Au départ, ça m'ennuyait parce que je me repérais plus du tout, et finalement, je crois que je vais les laisser comme ça, parce qu'en cherchant un livre qu'on trouve pas, on en trouve d'autres imprévus, et je trouve que c'est pas plus mal cette disposition aléatoire.
Vous cherchez souvent des livres ?
Oh bah oui, quelquefois,
ouais.
Oui. Il y en a certains que je retrouve plus, et qu'ensuite, enfin, quelquefois on est obligé de racheter les livres en troisième exemplaire parce que, bon, mais oui, je cherche.
Mais quand je veux dire quand vous cherchez, c'est pas tant de vous imaginer paumé dans votre bibliothèque que de chercher, c'est-à-dire au sens d'avoir besoin d'aller lire ou tel texte. Vous êtes chez vous en train de travailler et vous vous dites. Ah, il faudrait que je sorte ça de ma bibliothèque. Ça vous arrive souvent, ça ?
Oui, ça arrive souvent. Ça arrive souvent aussi bien pour des ouvrages de fiction que pour des ouvrages de documentation, qui est assez. Enfin, pour moi, ça fait beaucoup partie du travail préparatoire d'un livre, la recherche de documents, de photos, de sons, tout ça.
Quand je regarde ces photographies, la chose que je peux dire à nos auditeurs et auditrices, c'est qu'il y a beaucoup de livres. Ça pourrait commencer par un commentaire quantitatif. Est-ce que vous avez toujours été entouré de beaucoup de livres, Jean Echenoz ?
Oui.
C'est beaucoup, on est d'accord, regard de là, à peu près les gens en général.
Là, il y en a vraiment pas mal,
ouais.
Oui. D'autant plus qu'il y a une des photos, ils sont en double fil, parce que bon. Mais oui, il y a toujours eu pas mal de livres. C'est un problème permanent, les bibliothèques, parce qu'il y a la question du rangement qui est insoluble, et puis la question du volume, qui fait que, comme disent les bibliothécaires professionnels, il faut quelquefois désherber.
Absolument.
Ce qui est toujours un crève-cœur, mais bon, il faut le faire, parce que les livres arrivent aussi régulièrement, ceux qu'on achète, ceux qu'on reçoit, etc.
Vous avez toujours été entouré de livres, y compris pendant l'enfance ?
Oui, mes parents étaient des grands lecteurs. Donc déjà enfant, j'avais accès aux livres de mes parents sans aucune retenue, sans aucune censure, à une exception près, je me souviens.
Oui, formulé ?
Oui, formulé. J'ai jamais compris pourquoi. Mon père voulait absolument pas que je lise les Liaisons dangereuses. Et je l'ai toujours pas lu. Je continue
à lui obéir.
Oui. Il va falloir que je décoince ça un de ces jours.
Peut-être. Mais c'était. Enfin, on pourrait comprendre, mais en même temps, s'il ne vous a empêché de lire que ça, ça va.
Oui, c'est curieux, c'est parce bizarre. qu'il y avait d'autres ouvrages auxquels j'avais accès, qui étaient beaucoup plus vifs, disons.
Ah, c'est marrant. Et vous savez pas du tout comme ça.
J'ai jamais compris pourquoi, ouais. Alors que je me souviens que j'avais découvert Histoire d'eau un peu plus tard, où là, ça n'avait aucun problème, ça posait aucun problème. Mais voilà, l'édition dangereuse. Il va falloir que je m'y mette un de ces jours pour
réfléchir pourquoi.
Oui.
C'était quoi comme lecteur? Vous dites des grands lecteurs, mais c'est-à-dire? C'est quoi grandir avec des parents grands lecteurs?
C'est-à-dire qu'on les voit toujours, on les voit toujours en train de lire, quoi. Enfin, c'est une grande partie de leur vie. Bon, les 20 dernières années de mon père, je le vois toujours dans son fauteuil avec une pile de livres à côté, aussi bien de la fiction, du roman, que des essais, des livres d'histoire. Enfin, c'était sa vie, quoi.
Belle image, bonne image. Votre père dans un fauteuil en train de lire.
Ouais, plutôt belle image. Ouais.
Et votre mère aussi?
Moins parce qu'elle était. Elle s'occupait beaucoup plus de la maison.
C'est pourquoi je pose la question, parce que souvent on évoque le père en train de lire.
Mais c'est elle qui m'avait... je me souviens, c'est un truc qui me revient souvent, c'est elle qui m'avait fait lire Dickens, par exemple. Et ça, c'était... Pour ça, je lui dois beaucoup aussi.
Oui, parce
on parlait pas mal de ses lectures, avec ma mère, et puis... Oui, c'était toujours très présent.
Concrètement, elle vous disait, tiens, Jean, lis ça.
C'était pas du côté de l'ordre, c'était de la suggestion.
Oui. Tu devrais lire ça, ça te plairait.
Tu pourrais.
Tu pourrais.
Tu pourrais. C'est plus habile.
Vous parlez de Dickens, notamment des grandes espérances, comme un horizon de roman. Souvent, vous le citez même au-delà d'une lecture, donc je sais pas, effectuée plutôt dans l'adolescence.
Au tout début de l'adolescence.
Souvent, vous le mettez comme presque, je sais pas, et ça me fait l'idée d'un horizon, mais presque marin, comme ça, au loin, quoi. Un horizon, romanesque.
C'est-à-dire, c'est passé d'une lecture un peu unidimensionnelle, qui serait celle du récit, des récits d'aventure, comme on lit dans les ouvrages pour la jeunesse, quoi, à une lecture plus tridimensionnelle, quoi. C'est-à-dire qu'il y a aussi les effets, le style, la fabrication, les dialogues, les descriptions, des choses qui sont, quand on est jeune, marginales par rapport au suspense ou au suspens, mais qui à ce moment-là. C'était quelque chose de l'ordre de la littérature qui apparaissait, plus que de la simple fiction.
À partir de quand vous vous rendez aussi disponible ou attentif à cette troisième dimension, Jean Echenoz? Parce que, comme la vocation littéraire, mais plutôt du côté de l'écriture, arrive pas très longtemps après ça, vous la situez souvent au milieu de l'adolescence, est-ce que ça change votre position de lecteur?
Je ne sais pas du tout. J'ai l'impression que ce sont deux choses séparées à ce moment-là. Puisque, autant que je me souvienne, les petites choses que j'écrivais, qui étaient des sottises, je crois pas qu'il y avait tellement de soucis d'écriture. Je crois que c'était des pages d'écriture comme ce qu'on fait à l'école, quoi. Sauf que ça, je m'en suis rendu compte plus tard. Non, puis je crois que c'était encore très intimidant ce que je recevais des...
Ah oui, des autres.
Des autres, ce que je recevais des livres. Et donc je crois que je m'appliquais besogneusement à aligner des mots comme ça.
Et ça a cessé de vous intimider à un moment donné?
Je dirais pas que ça a cessé de m'intimider. Je dirais qu'il y a eu un moment dans ma vie où... Ou ce vieux désir romanesque, je me suis dit, je vais avoir 30 ans, je viens d'avoir 30 ans, je sais plus très bien, il serait temps quand même de voir, de me mettre à l'épreuve, quoi. Parce que en général, les petites choses que j'écrivais avant, sous diverses formes, c'était des choses que j'achevais pas, qui étaient bon. Mais là, entreprendre un roman, ça veut dire vraiment... c'est une affaire au long cours. Mmh. Voilà.
Il y a quelque chose souvent, on va dire presque deux clans ou deux équipes dans les lectrices et dans les lecteurs, les grands lecteurs, les grandes lectrices qui ensuite écrivent, qui ou bien disent comme vous être intimidés, il y a quelque chose, voilà, ou alors que ça va plutôt du côté du désir, que la lecture lance le désir, lance l'écriture, et puis il y a peut-être une troisième équipe qui serait les deux, quoi. Vous seriez de quel côté?
Ah, ça serait les deux, serait les deux, parce que c'est à la fois intimidant, et puis il y a comme cette chose un peu mystérieuse qui se... Pourquoi est-ce qu'on a ce désir, ce besoin d'écrire? Ça, c'est jamais résolu, cette question. Qu'est-ce qui fait que ça paraît la chose la plus importante à faire. Je sais pas.
Aujourd'hui, quelle place occupe la lecture dans votre vie?
Elle occupe une place assez quotidienne, que ce soit des lectures, des choses nouvelles, ou bien des désirs de relecture, ou bien des choses qui sont liées au travail, c'est-à-dire en grande partie de la documentation, comme je vous disais.
Je reviens à ces images de votre bibliothèque, donc dérangées, rangées, mais que vous allez probablement laisser en l'état, parce que ça a l'air de vous convenir. Qu'est-ce qu'on y trouve rapidement dans ces très nombreuses cases-là?
Je crois qu'on trouve surtout des romans.
Surtout des romans?
Ouais, je crois qu'on trouve surtout des romans, un petit peu de poésie, mais c'est surtout de la fiction, oui.
On évoquait la bibliothèque de vos parents, Jean Echenoz. Est-ce qu'il y a des livres qui ont migré de cette bibliothèque côtoyée pendant l'enfance à celle à côté de laquelle vous vivez aujourd'hui?
Qui ont migré?
Ouais, que vous auriez gardé?
Oui, il y en a certains que j'ai. Celui que j'ai dérobé, enfin dérobé avec son accord d'ailleurs, à mon père, je crois. Le premier, c'était Locus Solus de Raymond Roussel.
On va parler tout à l'heure de Raymond Roussel, qui fait partie des livres que vous avez choisis. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, garder un livre lu par votre mère ou lu par votre père, c'est un objet particulier par rapport à d'autres choses que vous pourriez garder ou pas plus qu'autre chose?
Disons que dans les centaines ou milliers de livres qui sont là, c'est un livre un petit légèrement fétichisé, quoi. Oui.
Mais... Sinon, vous avez un rapport plutôt assez tranquille. Les livres, pour vous, c'est le texte, quoi. C'est pas tant l'objet.
Ah non, si, c'est beaucoup l'objet. Ah oui, c'est l'objet, c'est l'odeur, c'est le papier, c'est la fabrication, si c'est du dos collé, du dos cousu, non, ça m'intéresse. Je suis pas du tout bibliophile, ça m'est tout à fait égal. Mais l'objet, c'est très important, oui.
On va parler de votre bibliothèque, de vos lectures et des 5 choix que vous avez choisis lorsqu'on vous a demandé quels étaient les livres étapes, juste après ça.
This is a song about a very big, strong, black... sexy Southern Baptist minister who thinks that he has his program all together until he runs up against a lady who shows him that he ain't got it together. His name is Reverend Dr. Lee. Reverend Lee. He went to the water and he prayed to the Lord about old Satan's daughter. Yeah, it seems in a dream, child, while he lay sleeping, she climbed in his bed, starts rubbing and twisting and turning. She was begging and pleading, loving and burning, panting and breathing. Reverend Lee, she said, Lord knows I love you, child. I would not even place God above you. Reverend Lee.
Deuxième temps de cette bibliothèque, Jean Echenoz. On vous a demandé, comme à chacun et chacune de nos invités, de choisir 5 textes étapes. Comment avez-vous interprété cette invitation?
C'était pas facile à faire parce que trouver des entre les classiques, les lectures récentes. Bon, par facilité, je me suis rabattu sur les classiques surtout.
Par facilité, ça raconte quand même quelque chose de vous en tant que lecteur.
Je crois que ça peut raconter des choses parce que ce sont chaque fois des écrivains, des lectures qui m'ont à la fois fasciné, aidé, interrogé, on pourrait dire aussi. Non, ça a été, je crois que. Si je ne me trompe, oui, tous.
Je citais en introduction de cette émission des bibliothèques de personnages en m'appuyant sur l'étude de François Doss, Jean Echenoz, Le Temps Suspendu, qui fait une étude très précise de votre œuvre et notamment des traces laissées dans votre œuvre romanesque de la fabrique de cette œuvre et donc de vous en tant que lecteur, Jean Echenoz, et donc qui fait le rapprochement entre la bibliothèque d'un personnage des Grandes Blondes avec la bibliothèque d'un personnage de Jean-Patrick Manchette. C'est bien ça, hein?
Oui.
Au dingo, au château. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est amusant? Est-ce que c'est signifiant? Comment vous jouez avec l'idée de composer la bibliothèque d'un personnage?
Cette histoire précise, c'était un emprunt délibéré à Jean-Patrick Manchette. D'ailleurs, dans les livres précédents, je m'arrange, comme j'avais beaucoup d'admiration pour son œuvre et puis d'amitié pour lui, dans les livres précédents, il y avait toujours une petite phrase ou un segment de phrase qui venait d'un de ses romans directement. Oui. Et je crois qu'il s'en était aperçu d'ailleurs dès le premier, dès le Méridien de Greenwich. Et là, comme il y avait un peu plus de lignes, je l'ai appelé pour lui demander l'autorisation quand même, parce que c'était un extrait plus conséquent.
Donc il y avait une forme, oui, de tissage avec votre propre admiration de Manchette, mais en même temps, c'est marrant, vous allez chercher la bibliothèque d'un personnage de Manchette pour que ça devienne la bibliothèque d'un de vos personnages. Qu'est-ce que ça raconte d'un personnage? Parce qu'il y a quand même ça, cet enjeu-là, au moment où vous le construisez, le personnage. Oui. Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça vous permet de planter en trois secondes, de dire il y avait ça dans sa bibliothèque?
C'est-à-dire, on peut imaginer que la bibliothèque d'un personnage qui est assez réduite dans ce cas-là, c'est quand même un petit peu un reflet de lui-même. Alors comme j'aime pas beaucoup les exposés psychologiques, les descriptions d'état d'âme, je préfère que par certains objets qui entourent le personnage, que ce soit ces objets-là qui définissent un peu sa personnalité. Et là, ça marchait bien, je trouvais que...
Ah bah oui, on voit quelqu'un quand même,
oui, non ? Je crois qu'on voyait... Enfin, on pouvait imaginer mieux à partir de cet environnement de livres.
Quelques romans policiers, des textes de Freud en édition populaire et une petite série de volumes en anglais. Franchement, moi, je m'imagine quelqu'un.
Je crois qu'on voit le personnage.
Et si on se promène dans votre bibliothèque, Jean Echenoz, on voit quelqu'un?
C'est-à-dire que
c'est plus long déjà.
C'est plus long. Ouais. Il y a des contrastes. Enfin, je suis pas sûr qu'on verrait très très bien. D'ailleurs, est-ce que je sais pas si je m'y vois moi-même.
Ni peut-être que vous avez envie d'être vu.
Ça participe de ça aussi, oui.
Est-ce que vous voulez lire un texte en premier dans ces cinq choix?
Celui que vous souhaiterez.
Alors, moi, je me disais que comme on avait évoquer Manchette, on pouvait commencer par lire un texte de Manchette aussi parce que vous racontez cette lecture d'adolescence. Sauf si Rimbaud, Roussel arrivent aussi tôt dans... Je me suis dit que j'avais envie de faire une petite, contrairement à mes habitudes, plongée assez chronologique dans votre ordre de découverte. Alors, qu'est-ce que vous découvrez en premier? Fonctionnons comme ça.
En premier de tout cela.
Ouais.
C'est Rimbaud.
C'est Rimbaud quand même. Hein.
Ouais.
Donc on va commencer par Rimbaud. Vous avez choisi un poème qui s'appelle...
Qui s'appelle Les Douaniers, oui, parce que c'est un poème très... C'est un poème très drôle, en vérité, et très sarcastique, parce qu'on trouve quelquefois dans la poésie de Rimbaud, comme dans les réparties de Nina aussi, il y a quelque chose qui est très... Il y a des effets comiques, et dans celui-là, dans Les Douaniers, il y a à la fois ce regard sarcastique, et puis quelquefois un vers qui est délirant, enfin qui était tombé par terre. Ouais.
On vous écoute pour la lecture et on en parle.
Ceux qui disent crénon, ceux qui disent macache, soldats, marins, débris d'empire, retraités, sont nuls, très nuls devant les soldats des traités qui tailladent l'azur frontière à grands coups d'hache. Pipaudant, l'âme en main, profond, pas embêté, quand l'ombre bave au bois comme un mufle de vache, ils s'en vont, amenant leur dogue à la tâche, exerçaient nuitamment leur terrible gaieté. Ils signalent aux lois modernes les faunesses, ils empoignent les faustes et les diavolos. Pas de ça les anciens, déposez les ballots. Quand sa sérénité s'approche des jeunesses, le douanier se tient aux appâts contrôlés. Enfer aux délinquants que sa paume a frôlés.
Les douaniers, c'est un poème qui a probablement été écrit en 1871 par Arthur Rimbaud. Il a donc 17 ans, Jean Echenoz. Qu'est-ce que vous aimez dans ce poème ? Donc vous avez dit mélange de choses qui vous font rire et de, voilà, d'un vers que vous attrapez au vol et qui vous marque profondément. En l'occurrence là, qu'est-ce qui vous fait rire et quel est le vers qui vous met par terre ?
Ah ben, le son nul, très nul, etc.
Ceux qui disent ça sont nuls, très nuls, en effet.
Familiarité que j'ai. Mais qui tailla de l'azur frontière à grands coups d'hache, c'est d'une violence. C'est extrêmement beau avec ce jeu sur les grands coups d'hache. Bon. Oui, et puis parce qu'apparemment, c'est un poème qui était écrit, j'ai lu ça quelque part en souvenir de ses expéditions en Belgique, quand il partait de chez lui avec je ne sais plus qui, avec un ami. Et donc, franchissant la frontière, ils avaient affaire aux douaniers qui notamment vérifiaient leur poche, comptant du tabac, mais comme les paquets étaient ouverts, ils pouvaient passer tranquillement. Et les douaniers, apparemment, approchaient parfois d'un peu trop près ces jeunes gens, d'où le dernier vers qui est vraiment... Qui est enfin
quand sa sérénité s'approche des jeunesses, voilà. Le douanier se tient aux appâts contrôlés, enfer aux délinquants que sa paume a frôlé.
Ouais.
Ah, j'avais même pas entendu.
Ouais. Oui, ça c'est pas mal, parce que c'est comme un souvenir un peu phobique sur le contact du douanier, pipe aux dents, etc.
Ouais. Il a l'oreille à ce qu'ils disent, au langage qu'ils emploient. Ils sont nuls, très nuls. Est-ce que vous étiez quelqu'un qui était attentif au langage, Jean Echenoz ? Est-ce que vous aussi, vous tendiez l'oreille ?
Ah ben, je crois que oui, je crois que j'ai passé un peu ma vie à ça, oui. Oui.
Aujourd'hui encore ?
Oh ben oui, on se refait pas.
Hein. C'est la passe. Vous avez découvert Rimbaud comment et quand ? Qu'est-ce que ça vous a fait ?
C'est une drôle d'histoire, parce que mon père était médecin psychiatre, et c'est une de ses patientes qui lui avait donné ce livre, qui est toujours celui-là que j'ai devant moi.
Cette édition-là ?
Ouais, cette édition, qui est une vieille édition, donc, qui lui avait donné pour moi, alors que je ne la connaissais pas. Voilà, il était revenu de son,
ça alors ?
De son bureau, en me disant, voilà, j'ai une patiente qui m'a donné ça pour toi.
Incroyable.
Ouais, c'est une drôle d'histoire.
Bah
c'était
ouais.
L'occasion de voilà.
Et vous savez rien de cette femme ?
Absolument rien, non.
Sinon, quelle est l'origine de ce livre qui débarque chez vous ? Et c'est pas rien, voilà. Quand même.
Non, c'était pas rien, parce que ça venait de nulle part. Et puis,
pas tout à fait nulle part.
Oui, je veux dire nulle part, c'est-à-dire ça venait d'un échange entre mon père et une inconnue. Et bon, ça aurait pu être quelque chose qui m'aurait absolument pas plu, sauf que là, c'était une découverte vraiment très, très violente, quoi.
Parmi les livres dont vous dites qu'il vous arrive de les chercher, ça fait partie, quoi. La poésie de Rimbaud, encore et toujours, Jean Echenoz.
Oui, ça peut être ça, comme... ça pourrait être le neveu de Rimbaud aussi, oui. Ouais.
Vous lisez beaucoup de poésie ?
Non, plus beaucoup. J'en lisais pas mal dans ma jeunesse, mais... J'en lisais pas mal, j'essayais d'écrire des petits poèmes, tout ça.
Vous dévalorisez pas mal quand même les petits poèmes que vous avez écrits. Vous les avez adressés, c'est vrai que vous les avez adressés à René Char ?
Oui, j'ai eu cette audace, oui.
C'est bien, bravo.
D'en envoyer 3 ou 4 à René Char.
Pourquoi ? Parce qu'il représentait quelque chose à ce moment-là pour vous ?
Alors qu'en vérité, il m'est impossible aujourd'hui de relire René Char.
Rien ?
Ah non, ça je peux plus.
Mais parce que vous n'y êtes plus du tout sensible ?
Non, plus du tout. Il y a cette espèce de majesté, un peu d'art de la formule, un peu gravé sur le marbre.
La flemme.
Ça marche plus, ouais. Ça. Non, ça ne marche plus, mais j'aimais beaucoup ça quand, je sais pas, j'avais 15-16 ans. Et oui, je l'avais envoyé quelques-unes de mes œuvres.
Il avait répondu ?
Oui, il m'avait répondu très gentiment, dans un style très René Char, d'ailleurs.
On ne se refait pas, ni René Char, ni Jean Echenoz.
Ouais.
Si on reste dans votre jeunesse et de votre vie de lecture, donc de cet âge-là, ou qu'on progresse dans les choix que vous avez faits, est-ce qu'on va vers où chronologiquement ?
Chronologiquement, bizarrement, on irait vers Roussel.
Ouais. Alors, on vous propose d'écouter Annie Lebrun qui parle de Raymond Roussel.
On voit très bien, par exemple, que l'application apparemment réaliste, et même on pourrait dire hyper réaliste de Roussel, à décrire la réalité, à essayer de saisir ce qu'il voit, c'est une façon d'essayer de tenter de contrôler le trop de sensations qu'il a. Et c'est quelqu'un qui voit tout, qui sent tout, et il a beau décrire le plus minutieusement possible ce qu'il voit, tout d'un coup, cet hyper-réalisme le fait basculer dans un autre univers, et de ce qui devrait être quelque chose qui colle à la réalité, on passe dans une irréalité totale, et on comprend très bien comment, si la rime lui vient facilement, donc la rime va accélérer tout ça, et comment pour maîtriser ce trop de sensations, ce trop de représentations qui le hante, Roussel va être obligé à un moment de passer à quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus coercitif que la rime, que les formes traditionnelles que sont le roman ou le théâtre, et qui va inventer ce procédé pour contenir la violence qui le hante.
C'est toujours bon d'écouter Annie Lebrun ici, elle est en 2019 au micro de Manu Farine, elle parle de l'écriture de Raymond Roussel. Vous avez choisi Raymond Roussel parmi ses livres Étapes, Jean Echenoz, vous avez choisi La Vue. Mmh. Est-ce que vous voulez nous en dire un petit mot avant d'entendre un extrait ?
J'ai écouté ce que disait Annie Lebrun là, et c'est exactement la première partie, le début de son propos, ça colle complètement avec La Vue, qui est une entreprise très étrange, qui consiste... Il existait des petits porte-plumes, encore au début du siècle, dans lesquels était enchâssée une petite image, une petite vue transparente. Et on pouvait regarder, c'était une toute petite lentille qui faisait moins d'un centimètre.
Mais qui était prise dans le bois.
Qui était prise dans le bois, ou dans le... Oui, qui était prise dans le manche du porte-plume. Et le départ de La Vue, c'est ça, c'est je prends mon porte-plume et je regarde cette image et je décris cette image. Or, ensuite, suivent 60 pages d'Alexandrin où la description prend une dimension presque délirante, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une description très précise du lointain, les yachts, les passagers du yacht, les gens qui sont sur la plage, jusqu'au geste qui est immobilisé dans La Vue, et jusqu'au détail qui orne la canne d'un des personnages, je veux dire. C'est à la fois une vue et une vue impossible.
Oui, parce que c'est presque une plongée cinématographique délirante.
Oui, de vue cosmique, quoi, qui n'aurait plus de raison de s'arrêter.
C'est un texte de 1904, on vous écoute dans la lecture d'extrait que vous avez choisi, Jean Echenoz.
Ah oui. Plus loin et plus à droite... Un yacht lance un panache de fumée assez long et noirâtre qui cache une autre barque dont l'aspect dans le lointain est par ce fait rendu plus fou, plus flou, plus incertain. La barque y disparaît grâce à sa petitesse. Le yacht lancé paraît donner de la vitesse. Son avant, tourné vers la gauche, fend les flots et l'écume jaillit jusqu'au premier hublot qui ressortent chacun comme une boule ronde. La coque est gracieuse, élégante. Du monde s'est groupé selon les amitiés sur le pont. Mais on cause surtout à l'avant, qui répond mieux que de fait l'arrière aux besoins d'ample vue et d'air vivifiant et sain. Une main nue est dressée à l'avant, sortant d'un groupe assis. Elle veut ajouter par un geste précis à l'affirmation d'une parole sûre, mettant en avant soit blâme, soit flétrissure au sujet d'un absent honni. Vilipendé. Celui qui fait le geste est sec, désincanté, long et chétif. À des côtés de sa moustache, qui se tient raide et bien relevée, se détache sur l'horizon de mer et par hasard se met avec exactitude en plein sur le sommet régulier, étendu, d'une petite vague. Le causeur, à son doigt courbé, porte une bague qui lance dans sa pose actuelle un éclair. Il est vêtu, non sans soin, d'un vêtement clair.
Un extrait de ce long poème d'environ 800 vers, Jean Echenoz. Comment est-ce que vous avez découvert Raymond Roussel ? Parce que bon, Rimbaud, certes, ça vous arrive par une patiente de votre père, mystérieusement, mais ma foi, c'est souvent que Rimbaud percute la vie des jeunes lecteurs, des lecteurs adolescents.
Oui,
c'est un peu moins fréquent, Raymond Roussel.
Mais ça, Raymond Roussel, ça vient aussi directement de la bibliothèque paternelle. Ouais. Ça, c'était une lecture que j'avais trouvée, qui était à la maison, comme on dit. Mmh. Et avec ce point un peu, c'est un peu dérisoire, mais que il existe dans Locus Solus un personnage qui s'appelle Echenoz. Bon, ce qui était déjà une familiarité un peu absurde.
Mais,
De toute façon, le personnage disparaît assez vite. Hein, c'est un explorateur. Qui ne fait pas de yeux aux.
Qu'est-ce qui retient à ce point votre attention dans ce poème dont on a dit qu'il est aussi une sorte de plongée délirante dans la vue qu'il lui donne, pour qu'aujourd'hui ça figure dans les 5 livres étapes que vous lisez pour nous, Jean Echenoz?
Parce que Roussel, vraiment, ça a beaucoup compté. Mmh. C'était lié aussi à un intérêt que je portais, que je porte toujours, à des personnages qui ont une pratique de la langue ou de la fiction ou du récit qui est ce que Raymond Queneau aurait pu regrouper comme il l'a fait sous la catégorie des fous littéraires. Or, Roussel n'est pas du tout un fou littéraire, mais par exemple, je pense au livre de Louis Wolfson qui s'appelle Le Schizo et les langues, qui m'avait énormément frappé plus tard et par une approche inconnue, une pratique inconnue du langage, de la prose. Bon, pour Wolfson, c'est particulier, parce que c'est une allergie à sa langue natale, à sa langue maternelle, qui le fait écrire ensuite. Enfin, bon, c'est un procédé complexe, comme les procédés de Raymond Roussel. Et cette idée de procédé m'intéressait bien.
Et ça vous intéresse parce que ça décrit pour vous une position très spécifique, très singulière vis-à-vis du langage?
Oui.
Quand vous dites ce sont ces figures-là, donc plus tard éventuellement regroupées fous littéraires, ce qui vous intéresse, c'est quoi? C'est l'invention ou c'est ce que vous entendez de neuf?
C'est une espèce de d'approche parallèle et très marginale de la langue et de ce qu'on peut en faire. Dans cette catégorie, je sais pas, c'est le texte de ce personnage hallucinant qui est Jean-Pierre Brisset aussi, qui avait écrit un texte qui s'appelle La grammaire logique. Alors là, c'était plus du tout de l'ordre du récit, mais de l'ordre d'une conception presque délirante et poétique de l'origine de la langue. Roussel, c'est pas la seule raison. C'est pas le seul. La folie de Roussel m'intéresse pas. C'est son œuvre qui m'intéresse d'abord, quoi. Et ce qu'il appelait son procédé, mais qui a été développé ensuite dans le Locus Solus, dans les Impressions d'Afrique, etc. On peut s'intéresser au procédé, mais ce qui est pas mal, c'est de lire le résultat
sans forcément connaître les origines de ce procédé-là.
Sans connaître le mode de fonctionnement, le mode de production du texte.
Mais quand vous dites que ce sont eux qui... Parce que vous le reliez aussi à votre intérêt général pour des pratiques particulières de la langue, sans forcément nécessairement connaître les origines de ces pratiques particulières, mais du coup, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans les êtres qui se jouent ou se positionnent particulièrement vis-à-vis du langage. On pourrait imaginer que c'est tout le monde, Jean Echenoz, mais peut-être pas tout le monde. Si, tout le monde. Tout le monde se positionne particulièrement vis-à-vis du langage.
Oui, chacun.
Y compris pour se positionner du côté dominant du rapport au langage.
Chacun invente son rapport au langage, certainement, oui. Alors ces inventions un peu marginales sont évidemment...
Un peu plus notables.
Intrigantes, oui. Mmh.
Et qui alors, par exemple? Parce que, bon, en même temps, si, je veux dire, Manchette, Conrad et Flaubert, que vous avez choisi ensuite, sont aussi des positionnements vis-à-vis du langage. Raymond Roussel, 1877-1933. Je ne l'ai pas dit, c'est pour le situer dans l'histoire littéraire. Vers qui on va désormais, si on continue notre route de vous en tant que lecteur, chronologiquement?
Dans la chronologie, je ne sais pas comment on va se débrouiller.
Tout arrive en même temps.
Ça va être Flaubert, sans doute.
Ok.
J'imagine.
Vous avez choisi Bouvard et Pécuchet de Flaubert.
Oui.
On vous écoute? Vous aimez bien lire à haute voix?
Oui, je peux le faire.
Ouais.
Disons que je peux le faire.
C'est sympa de le faire, alors.
Non, c'est un passage de Bouvard et Pécuchet parmi tous les échecs qu'ils connaissent, toutes les tentatives qu'ils font dans tous les sens pour s'approprier la science. Là, c'est un moment où ils font de l'agriculture et il y a une fascination de la part de Bouvard, il y a une fascination pour l'engrais. Évidemment, tout ça va se terminer lamentablement.
Foiré, quoi.
Oui, ouais. Totalement. Ouais.
On vous écoute.
Après force méditation, Bouvard reconnut qu'il s'était trompé. Son domaine exigeait la grande culture, le système intensif, et il aventura ce qui lui restait de capitaux disponibles, 30 000 francs. Excité par Pécuchet, il eut le délire de l'engrais. Dans la fosse au compost furent entassés des branchages, du sang, des boyaux, des plumes, tout ce qu'il pouvait découvrir. Il employa la liqueur belge, le lisier suisse, la lessive, des harengs sort, du varech, des chiffons, fit venir du guano, tâcha d'en fabriquer, et, poussant jusqu'au bout ses principes, ne tolérait pas qu'on perdît l'urine. Il supprima les lieux d'aisance. On apportait dans sa cour des cadavres d'animaux dont il fumait ses terres. Leur charogne dépecée parsemait la campagne. Bouvard souriait au milieu de cette infection. Une pompe installée dans un tombereau crachait du purin dans les récoltes. À ceux qui avaient l'air dégoûtés, il disait « Mais c'est de l'or, c'est de l'or !» Et il regrettait de n'avoir pas encore plus de fumier. Heureux les pays où l'on trouve des grottes naturelles pleines d'excréments d'oiseaux.
Vous relisez souvent Flaubert, Jean Echenoz. Donc vous le rencontrez plutôt fin de l'adolescence, c'est ça?
Ah non, beaucoup plus tard.
Ah, beaucoup plus tard.
Ouais, beaucoup plus tard, parce que c'était une lecture imposée au lycée, et moi je supportais pas les lectures imposées. J'étais pas très vaillant dans cette institution,
très bonne manière de résumer les choses. J'étais pas très vaillant dans cette institution.
Et donc.
Est-ce que vous re-rencontrez Flaubert de votre plein gré?
C'est plus tard, c'est vers 25 ans. Et je suis assez content d'ailleurs d'avoir refusé cette lecture imposée parce que de la même façon que j'ai pas voulu faire d'études de lettres parce que ça serait passé par les professeurs. Enfin bref, non, parce que là c'était une découverte. Naïf, disons. Alors que j'imaginais, souvenir de lycée, que c'était lecture imposée, donc rébarbative, pas du tout, c'était un nouveau bonheur qui arrivait. Avec Madame Bovary, avec l'éducation sentimentale, que je relis de temps en temps, mais l'ouvrage auquel je reviens toujours et que j'ai le plus relu,
c'est Bouvard et Pécuchet.
Oui.
1881, dont vous le dites, ils vont de foirade en foirade, d'échec en échec. Vous choisissez cet extrait pour quelle raison?
Parce que c'est un peu une miniature de tous leurs échecs. Et ce qui est drôle, c'est qu'au départ, c'est un. Enfin, moi, j'aime énormément ce livre parce que chaque lecture est une lecture différente.
Chaque lecture que vous en faites.
Oui, que j'en fais. Mmh. Oui. Je veux dire, on peut le prendre comme un drame, comme une farce, comme un essai, comme une. Il y a une chose qui est curieuse, c'est que à un moment dans sa correspondance, il explique à je ne sais plus quel correspondant ou correspondante que. Il faudrait pas que ça ait l'air trop d'une dissertation philosophique, dit-il.
Donc à propos de Bouvard et Pécuchet.
À propos de Bouvard et Pécuchet. Mmh. Donc je suis obligé, dit-il, enfin en gros, hein, je cite de mémoire. Donc je suis obligé d'introduire des personnages pour à la limite pour que ça ait l'air d'un roman. Mmh. Or c'est un roman. Mais son propos initial c'est de la méthode dans l'apprentissage des sciences. Mmh. Apparemment, ce qui est un sujet un peu ardu. Et ça devient ce roman de l'échec, et d'un échec très, très émouvant, et dans lequel il y a aussi un humour permanent.
Oui, vous dites ma lecture de Bouvard et Pécuchet peut bouger en fonction du moment où je le relis. En ce moment, vous êtes dans quelle interprétation de Bouvard et Pécuchet ?
Oh ben, si je prends le dernier extrait que j'ai lu, c'est plutôt du côté de la farce. Mmh. Mais c'est absolument pas une farce en même temps, parce que autant les personnages que Flaubert décrit au départ comme dérisoires, comme ridicules, il y a une espèce de tournant dans le livre qui fait qu'ils s'attachent à eux et ils prennent conscience de la bêtise, comme lui. Et ça, c'est un moment très émouvant, parce que les personnages changent de sens et deviennent pratiquement héroïques.
On va vers le prochain choix, Manchette ou Conrad ?
Bah, si on reste dans la chronologie.
Restons dans la chronologie.
Conrad, oui.
Alors, est-ce qu'on a une petite chose à vous faire écouter ? C'est un extrait d'émission où Michel Debris parle de Conrad sur son usage particulier de l'anglais.
Il avait un usage de l'anglais un peu difficile, puisque c'était pour lui une langue étrangère, mais comme c'est quelqu'un qui était un peu ou prou étranger à lui-même aussi, c'est peut-être pour ça qu'il s'est senti si bien dans cette langue. Mais non, je ne crois pas que ce soit de la maladresse. Je crois vraiment que ce qu'on lui a reproché, d'ailleurs, souvent, ses lourdeurs, ses répétitions, etc. Mais vous les enlevez, il n'y a plus Conrad. C'est là qu'il réside complètement. Ces images, c'est comme quelque chose qui jaillit d'une nuit opaque, d'un lac noir sans fond tout d'un coup, et qui vous saute à la figure, prend possession de vous, vous hante, et c'est ça systématiquement qu'il cherche ou qu'il vienne. C'est peut-être aussi qu'il lui vienne tout simplement, je pense que c'est... Il y a cette interrogation qui court tout au long, c'est... Rendre sensible d'abord le tragique du monde, faire affleurer comme d'une nuit de l'inconscient, comme ça, quelque chose qui est à la fois totalement étranger, en suscitant l'impression que c'est de vous en même temps qu'il parle.
Nous avions nagé 11 heures durant cette dernière étape. Nous étions deux aux avirons, et celui dont c'était le tour de se reposer tenait la barre. Nous avions aperçu le feu rouge de cette baie, et nous avions mis le cap dessus, pensant bien qu'il devait marquer quelques petits ports côtiers. Nous avions dépassé deux navires d'aspect exotique, d'arrière très haut, endormis à l'ancre, et en approchant du feu, très faible maintenant, le canot vint heurter du nez l'extrémité d'un appontement. Nous étions morts de fatigue. Mes hommes lâchèrent les avirons et s'affalèrent sur les bancs comme des cadavres. Je m'amarrai à un pieu. Un courant ridait l'eau mollement. L'obscurité parfumée du rivage formait de vastes masses, probablement des touffes colossales de végétation, formes muettes, et fantastique. À leurs pieds, le demi-cercle d'une plage étincelait faiblement comme une illusion. Pas une lumière, pas un mouvement, pas un son. Le mystérieux Orient était devant moi, parfumé comme une fleur, silencieux comme la mort, sombre comme un tombeau. Et je restais là, exténué au-delà de toute expression, exultant comme un conquérant, incapable de dormir et extasié comme devant une profonde, une fatale énigme.
Il paraît que ce quarto des nouvelles de Joseph Conrad, c'est le livre que vous offrez le plus souvent, Jean Echenoz.
Ah oui, ça m'est arrivé plus
de
fois. Oui, parce que je trouve que toutes les... Enfin, le titre, c'est Nouvelles complètes, en fait, ce sont de brefs romans. Je trouve que tous ces textes sont... Chacun est une merveille, enfin, tout est... Et c'est drôle, parce qu'en fait, quand on pense à Conrad, enfin... Avant, en tout cas, quand je pensais à Conrad, je m'imaginais quelque chose du côté du roman d'aventure, et c'est pas du tout le cas, en fait. C'est là le passage que je lisais. C'est,
oui, donc c'est un extrait de jeunesse.
Ouais. C'est un extrait de jeunesse. Oui, c'était une description plus aventureuse, mais en fait, ce sont surtout des histoires de tourments intérieurs. Dans ce recueil, il y a deux choses qui ont un lien avec la vieillesse, c'est Au bout du rouleau, qui est un texte bouleversant, et puis une nouvelle ou un petit roman qui est moins connu, qui s'appelle L'officier noir, et qui est aussi sur la vieillesse, parce que c'est un officier qui est pas du tout noir de peau, mais qui est très remarquable par la noirceur de ses cheveux et de sa barbe, et donc qui est considéré comme toujours jeune. Et donc, qui peut embarquer sur des bateaux, qui trouve des engagements.
Et alors, qu'est-ce qu'il fait ?
Et le drame, c'est quand on se rend compte que dans ces affaires, il y a un flacon de teinture. Mmh. Voilà. Et que ce flacon est perdu. Je ne sais plus très bien dans quelles circonstances. Et ses cheveux commencent à blanchir. Et c'est un texte aussi très, très, très prenant. Et chacun des. Je ne sais pas, un texte comme Le Duel, qui est un texte extraordinaire aussi. Chacun de ces textes est attachant pour des espèces de facettes différentes.
Et alors, jeunesse que vous avez choisie, pour quelle raison ?
De façon tout à fait arbitraire. De façon tout à fait arbitraire, parce que en feuilletant le volume, je trouvais ce passage très beau. Mais...
Qui se termine quand même par une profonde,
oui.
Une fatale énigme. Extasié comme devant une profonde, une fatale énigme. Est-ce que vous cherchez ça dans les livres ? Des profondes
et fatales énigmes ?
Ou vous avez plutôt envie qu'on les résolve ?
En tout cas, pas forcément qu'on les résolve. Non, non, non. L'énigme d'un livre, l'énigme d'un roman, c'est le suspens dans lequel on est, que ce soit un suspens du côté de l'action ou de la forme, de la manière. Mais la résolution de l'énigme action n'est pas forcément la chose la plus importante.
Et on peut aussi résoudre l'énigme action sans résoudre peut-être la fatale et profonde énigme qui demeure.
Voilà, oui.
C'est même là que c'est pas mal. On a parlé de lui beaucoup, Jean Echenoz, en tout cas, comme ça, en l'évoquant, Jean-Patrick Manchette. On va l'écouter dans une archive avant d'évoquer le choix du texte que vous avez fait pour nous aujourd'hui.
Alors, pour vous, c'est quoi le polar ?
C'est un genre de livre qui est, dès ses origines, produit directement pour le marché. Il est produit directement pour être vendu, il n'est pas produit par quelqu'un qui a un mécène, par exemple, ou qui a des rentes et qui écrit pour l'amour de l'art. Il est écrit pour bouffer. Et dans la mesure où il est écrit pour bouffer, il devient la vérité du roman artistique, parce que le roman artistique aussi est devenu un objet de marché. Simplement, on cache ça, on n'en parle pas, c'est censé être de l'art, c'est censé être noble. Le roman artistique, alors que c'est devenu une foire. Le polar, ça me paraît presque plus franc. Le fait qu'on s'avance en disant « je suis de la littérature alimentaire ». Et ça permet, à ce moment-là, de contourner l'adversaire, et au lieu d'être un malheureux écrivain d'art qui est traqué par les questions du marché, on est un minable auteur de polar, rien qu'un auteur de polar, et puis en secret, pendant qu'on raconte sa petite histoire polareuse avec plein de coups de feu et tout ça, on est en train de travailler sur le texte, mais personne ne le sait.
On est en train de travailler sur le texte, mais personne ne le sait. C'est la voix de Manchette, probablement dans un journal télévisé diffusé sur France 3 en 1983. On en a parlé en introduction, et puis on va terminer à la fois avec cette voix et l'évocation d'un choix d'un de ses textes. Il figurait naturellement dans les 5 livres étapes dont on parlait aujourd'hui, Jean Richenoz, quand on parle de votre bibliothèque.
Oh oui, je crois, parce que la lecture des romans de Manchette au début des années 70, c'était d'une certaine façon la possibilité que s'ouvre... je ne sais pas comment expliquer ça, que s'ouvre une porte d'accès à l'écriture romanesque pour moi. Parce que c'est une époque, dans ces années-là, où il n'y avait pas tellement de... À part les auteurs classiques, et les choses que je lisais, que je découvrais, à part Faulkner, tant d'écrivains importants, il n'y avait pas tellement d'identification possible. En plus, le roman n'était pas très vaillant à cette époque-là. Et l'idée d'un passage, comme il le dit, par la littérature noire, tout en travaillant sur le texte, comme il dit, parce que au début de cette
l'air de rien,
oui. Au début de cette interview, on se dit quand même il est de mauvaise foi parce que c'est du texte, Manchette, vraiment, c'est du style, mais c'est ce qu'il indique très discrètement à la fin. Donc c'était le moyen au départ le premier roman qui a fini par être publié, le premier objectif, c'était d'écrire un roman policier, quoi, pour la série noire. Et puis, je me suis aperçu que je partais dans d'autres directions, donc voilà. Mais non, c'était quelqu'un d'important. Et puis, il se trouve qu'on a été un peu amis, donc c'était quelqu'un qui a beaucoup compté. Et ses livres, surtout, ont beaucoup compté.
Vous avez choisi d'ailleurs donc de partager avec nous un de ses livres qui s'appelle « Le Petit Bleu de la Côte Ouest ». Est-ce que vous voulez nous dire pourquoi vous avez choisi ce livre-là ?
J'aurais pu trouver vraiment beaucoup d'extraits. Parce que, alors là, vraiment, ce sont des romans que j'ai lus, relus.
Que vous connaissez très bien.
Oui, que je connais bien. Et là, il me semblait que c'était une ouverture possible, quoi, pour à la fois l'action et le traitement de l'action.
Voilà. On y va.
Et il arrivait parfois ce qui arrive à présent. Georges Gerfaut est en train de rouler sur le boulevard périphérique extérieur. Il y est entré porte d'Ivry. Il est 2h30, ou peut-être 3h15 du matin. Une section du périphérique intérieur est fermée pour nettoyage, et sur le reste du périphérique intérieur, la circulation est quasi nulle. Sur le périphérique extérieur, il y a peut-être 2 ou 3... ou au maximum 4 véhicules par kilomètre. Quelques-uns sont des camions, dont plusieurs sont extrêmement lents. Les autres véhicules sont des voitures particulières qui roulent toutes à grande vitesse, bien au-delà de la limite légale. Plusieurs conducteurs sont ivres. C'est le cas de Georges Gerfaut. Il a bu 5 verres de Bourbon Four Roses. D'autre part, il a absorbé, voici environ 3 heures de temps, 2 comprimés d'un barbiturique puissant. L'ensemble n'a pas provoqué chez lui le sommeil, mais une euphorie tendue qui menace à chaque instant de se changer en colère, ou bien en une espèce de mélancolie vaguement tchékovienne et principalement amère, qui n'est pas un sentiment très valeureux ni intéressant. Georges Gerfaut roule à 145 km/h. Georges Gerfaut est un homme de moins de 40 ans. Sa voiture est une Mercedes gris acier, le cuir des sièges est en acajou, et de même l'ensemble des décorations intérieures de l'automobile. L'intérieur de Georges Gerfaut est sombre et confus. On y distingue vaguement des idées de gauche. La raison pour laquelle Georges file ainsi sur le périphérique, avec des réflexes diminués, et en écoutant cette musique-là, il faut la chercher surtout dans la place de Georges dans les rapports de production. Le fait que Georges ait tué au moins 2 hommes au cours de l'année n'entre pas en ligne de compte. Ce qui arrive à présent, arrivait parfois auparavant.
Vous avez dit, c'est un parfait exemple pour parler de l'action, mais aussi du traitement de l'action. Jean Echenoz, si on fait une rapide analyse de ce texte-là, qu'est-ce qui vous intéresse sur ces deux plans, action et traitement de l'action ?
L'action, c'est un homme qui tourne en rond sur le périphérique, mm-hmm. pas forcément une action dramatique. Bon.
Un peu plus quand t'as 2 verres dans le nez et un peu plus
quand on a du bourbon et du barbiturique puissant, oui. Mais c'est la tension qui annonce quelque chose et qui est indiquée dans les dernières phrases sur les meurtres que Gerfaut a commis. Et puis c'est sur le traitement de cette situation, c'est sur le jeu avec les répétitions, boulevard extérieur, du polar périphérique, ces descriptions précises, très très sobres, très très comportementalistes, si on peut dire.
Et en même temps, avec beaucoup d'humour, il part de l'intérieur cuir de la bagnole pour aller vers l'intérieur de la tête de son personnage.
On distingue vaguement des idées de gauche, oui.
C'est drôle.
Ben oui, mais c'est parce que l'humour de Manchette est au-delà de son style, qui je trouve très très étonnant. Il y a un humour qui est permanent, qui en même temps qui incarne parfaitement la forme du Rocondoir et qui s'en moque et qui se moque de lui-même et qui est de la sorte qui arrive à une espèce de degré supérieur quoi.
Vous riez souvent en lisant?
Oui, ça m'arrive de rire en lisant, oui, heureusement.
Merci beaucoup Jean Echenoz d'avoir ouvert votre bibliothèque pour le Book Club de France Culture. Au son aujourd'hui, c'était Grégory Wallon à la réalisation, Cassandre Puel. Pour retrouver tous les textes lus et commentés avec Jean Echenoz, rendez-vous sur la page du Book Club franceculture.fr. C'est aussi sur cette page, en cliquant sur la série, que vous pourrez retrouver tous nos portraits de bibliothèque. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club qui m'aide à penser, préparer, programmer ces émissions, et tout particulièrement aujourd'hui à Jeanne Aléos.